L'incertitude aujourd'hui encore en Haïti, les tractations politiques se poursuivent pour former un conseil présidentiel de transition. Elles se poursuivent au-delà des délais imposés par l'accord politique trouvé au début de la semaine. Et les formations se divisent sur les noms à proposer et sur le soutien à la future mission multinationale de sécurité. On y revient dans un instant. Notre dossier du jour nous emmènera au Pérou découvrir la culture de la noix d'Amazonie. Une noix bonne pour l'environnement, on le verra avec notre correspondante. Et puis l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, les producteurs de bananes de Martinique attendent des actes de la part du gouvernement.
Oui, Gérald Darmanin et sa ministre déléguée Marie Guévenoux sont aujourd'hui en Martinique et la filière banane, nous le verrons, les attend de pied ferme.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans un quart d'heure environ. Merci à tous d'être avec nous.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Les discussions politiques sont très laborieuses en Haïti. Le délai accordé aux partis est dépassé. Ils auraient dû choisir en principe leurs représentants au Conseil présidentiel de transition en vertu de l'accord qui a été trouvé au début de la semaine sous l'égide de la CARICOM et des États-Unis. On va en parler avec Franz Duval. Bonjour.
Bonjour Anne.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Il y a eu 2 jours de tractation déjà, 2 jours qui ont révélé un certain nombre de divisions au sein des mouvements et des partis politiques.
Tout à fait. Alors, il faut du temps aux partis politiques, d'autant plus que, mis à part Famille Lavalle, ces petites Dessalines qui sont tout simplement des partis politiques, les autres structures, ce sont des regroupements de partis et d'associations. Il faut trouver un consensus à l'intérieur de ces entités. Ça prend un peu de temps. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord dans un même regroupement. Certains le disent publiquement, d'autres manœuvrent en coulisses. Pour le moment, il n'y a pas encore de transmission officielle de nom avec un communiqué. Il y a des partis qui sont fixés sur leurs représentants, d'autres qui ne le sont pas encore. Et il y a Petit Dessalines qui a dit clairement qu'il ne va pas participer à ce conseil. C'est à ce point qu'on est ce matin, on attend.
Et la situation a l'air encore assez confuse. Certains médias haïtiens annoncent qu'en fait tous les noms ont été communiqués. Ça n'est pas les informations dont vous disposez.
On n'a pas vu de communiqué officiel, on n'a pas vu de lettre et on n'a pas encore vu une prise de position de la CARICOM.
Donc les débats se poursuivent a priori, ils sont assez compliqués, notamment parce que l'une des conditions pour faire partie du Conseil présidentiel de transition, c'est de soutenir la mission multinationale qui est censée appuyer la police haïtienne. Cette mission, pour l'instant, elle est suspendue par le Kenya, mais c'est une question qui est très sensible pour beaucoup de partis. Et vous rappelez, Franz, dans votre éditorial, que tout le monde n'y était pas favorable il y a encore très peu de temps.
Jusqu'à dimanche, tout le monde n'était pas favorable. Lundi soir, quand l'entente a été trouvée après la réunion avec la CARICOM, c'est devenu une obligation. Et certains partis politiques doivent ajuster leur position, doivent convaincre leurs membres et surtout doivent avoir un nouveau discours pour expliquer comment eux qui étaient contre la venue d'une force multinationale qui, dans leur discours, allait supporter Ariel Henry, doivent maintenant approuver la venue d'une force multinationale qui va supporter le gouvernement qu'ils vont constituer. C'est de la gymnastique politique qui est en train d'être faite et ça joue aussi à Port-au-Prince.
Et on imagine que ça peut prendre un peu de temps. D'ailleurs, les réactions sont très mesurées à Port-au-Prince. Je vous propose d'écouter un habitant de la capitale.
Cette affaire de conseil présidentiel.
Ce conseil présidentiel qui se profile à l'horizon ne me rassure pas trop. Car on le sait bien, c'est déjà difficile pour un président et un premier ministre de cohabiter, donc pour un conseil de 7 membres aussi. Je me demande par quel mécanisme vont-ils prendre des décisions. Si l'un de ses membres décide de démissionner, qu'adviendra-t-il de ce conseil? Donc il y a pas mal de flou, selon moi.
Donc il y a un paquet de flou, moi-même.
Une réaction recueillie par notre correspondante à Port-au-Prince. Vous vous trouvez aussi dans la capitale, Franz, et on a l'impression, en lisant la presse, qu'il y a une légère accalmie dans la zone métropolitaine. Est-ce que vous nous le confirmez?
Tout à fait, il y a une accalmie depuis samedi. La dernière grosse attaque, c'était contre le Palais National et les institutions situées au Champ de Mars à Port-au-Prince. Depuis, les tirs ont cessé, ont diminué et la vie a quasiment repris son cours normal dans certains quartiers pendant que d'autres sont encore barricadés. Les nuits étaient calmes jusqu'à hier soir où cela a recommencé. On a tiré un peu partout dans la région métropolitaine et il est question ce matin que l'Académie de police a été attaquée à nouveau par un gang qui est dans son voisinage.
La police, elle a vraiment été prise pour cible au moment du déchaînement de violence auquel on a assisté ces 2 dernières semaines. Et vous publiez justement un reportage, un retour sur cette attaque qui a vraiment traumatisé les policiers de Bon Repos. C'était il y a 2 semaines.
Tout à fait, c'est l'attaque la plus sanglante. Il y a des policiers qui en sont morts, il y a des policiers blessés. Le poste de police aujourd'hui est totalement contrôlé par le gang de la région. Et la police n'a jamais pu reprendre contrôle ni de ce commissariat, ni des 7 ou 8 autres qui ont été attaqués, incendiés, pillés, vandalisés totalement. Et la police explique dans cet article le déroulé de cette journée fatale où les policiers savaient qu'ils allaient être attaqués, ont demandé des renforts, n'ont pas reçu les renforts, ont été assaillis et quelque part ont été vraiment sacrifiés. Et ils sont morts dans la majorité d'entre eux, sauf un seul qui a pu se réfugier dans une maison des environs. Mais tous ceux qui étaient dans ce poste de police ce matin-là ont été tués.
La police qui fait donc l'objet de très nombreuses attaques depuis un peu plus de 2 semaines. Merci Franz Duval. On peut lire cet article et toutes vos informations dans le Nouvelliste et sur le site de votre journal. On parlait il y a un instant de la mission multinationale attendue en Haïti. Le Kenya donc a annoncé cette semaine sa suspension, la suspension des préparatifs du moins parce qu'aucune troupe n'avait été déployée et parce que les financements exigés par Nairobi ne sont pas disponibles pour l'instant. Mais quand même, c'est un coup dur pour les Nations Unies qui réclament un soutien pour Haïti depuis plusieurs mois. Coup dur aussi pour Washington. Mais l'administration américaine ne baisse pas les bras. Le secrétaire d'État Anthony Blinken assure qu'il ne s'agit que d'un léger report.
La mission internationale de soutien et de sécurité peut avancer. J'ai eu le président kényan Ruto au téléphone qui a confirmé que le Kenya est prêt à mener cette mission dès que ce nouveau conseil sera mis en place et dès qu'un premier ministre par intérim sera choisi. Cette mission peut se poursuivre. Le ministère de la Défense double sa contribution à cet effort. Donc nous avons 200 millions de dollars de la Défense et encore 100 millions du reste de l'État américain en soutien à la mission internationale de sécurité. Nous avons encore presque 100 millions de dollars amenés par d'autres pays du monde et notamment du Canada. Donc nous pensons que cela peut aider à rétablir la sécurité, à reprendre le contrôle du pays aux gangs. Rien de tout cela n'est facile, rien de tout cela ne va arriver du jour au lendemain. Mais au moins, il y a un plan, un processus en place pour faire cela. Il est conçu et mené par des Haïtiens, mais il est soutenu par de nombreux pays à travers le monde.
Anthony Blinken rappelait que les États-Unis ont promis 300 millions de dollars pour cette force. La somme est toujours bloquée par les Républicains au Congrès. RFI. The World's Voices. Car le bras de fer est engagé en vue de la présidentielle de novembre, démocrates et républicains intensifient la campagne. Les grands thèmes commencent à se dessiner maintenant que les candidats sont choisis dans chaque camp. L'équipe de Joe Biden, par exemple, veut parler du droit à l'avortement, comme en témoigne un déplacement inédit de sa vice-présidente. C'est à lire dans la presse aujourd'hui, Marine de la Moissonnière, la vice-présidente en visite dans une clinique pratiquant des IVG à Minneapolis. C'est du jamais vu aux États-Unis.
Oui, Kamala Harris est en effet devenue la plus ardente défenseure du droit à l'avortement au sein de l'administration Biden, explique le New York Times. Et la défense du droit à l'avortement est clairement un pilier de la stratégie de réélection du président sortant. Kamala Harris profitera donc de cette visite pour mettre en avant ce que son administration a fait pour essayer de préserver l'accès à l'avortement alors que les États conservateurs, eux, adoptent de plus en plus de restrictions.
Le New York Times fait quand même remarquer que les démocrates n'ont pas toujours été aussi clairement pro-avortement.
Oui, pendant longtemps, explique le journal, beaucoup d'entre eux se sont contentés de soutenir un avortement sûr, légal et rare, à condition qu'il ne soit pas financé par les contribuables. D'ailleurs, Joe Biden avait à peine mentionné le droit à l'avortement lors de sa campagne de 2020. Et alors pourquoi ? Eh bien, parce que ce catholique pratiquant était gêné quand il s'agissait de parler de ce sujet, raconte le New York Times, et aussi parce que les stratèges du parti estimaient que cela ne permettrait pas de conquérir des électeurs indécis. Mais depuis que le droit à l'avortement est menacé aux États-Unis, eh bien les électeurs ont poussé le parti démocrate à évoluer sur cette question. Et même si Joe Biden n'est toujours pas très à l'aise avec ce sujet, il évite soigneusement d'employer le mot avortement, fait remarquer le New York Times, eh bien il a trouvé la parade, il défend désormais la liberté individuelle et le droit de chacun de faire ses propres choix médicaux.
Au Chili, le président Boric, lui, cherche comment lutter contre l'insécurité et il pourrait recourir aux militaires.
Oui, selon la Tercera, Gabriel Boric envisage un déploiement militaire dans les zones urbaines. Problème, une partie de son camp n'y est pas favorable. Les communistes, par exemple, veulent d'abord que les prérogatives des militaires, et notamment dans quel cas ils peuvent faire usage de la force, eh bien que tout cela soit clairement défini, explique le quotidien. D'autres à gauche estiment qu'il faut surtout donner davantage de moyens aux policiers et aux services de renseignement gouvernement, ou bien encore que les soldats ne sont pas formés au maintien de l'ordre public et à la lutte contre le crime organisé, rapporte la Tercera. Que le président envisage de recourir aux militaires prouve bien, en tout cas, selon le quotidien chilien, qu'au niveau sécuritaire, le pays est dans une situation bien plus grave qu'il y a 2 ans, contrairement à ce que soutient le gouvernement.
Et toujours au Chili, le gouvernement a ordonné l'évacuation de 8 secteurs à risque à cause de nouveaux incendies de forêt qui affectent 2 collines dans la région de Valparaíso, cette région qui avait été très touchée par des incendies dramatiques le mois dernier. Ils avaient fait 134 morts. Cette fois-ci, les feux seraient sous contrôle actuellement.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On va prendre à présent la direction du Pérou, plongé dans la forêt amazonienne, pour parler d'exploitation un peu particulière, une exploitation soucieuse de la protection de l'environnement et de la forêt. C'est l'exploitation de la noix du Brésil. Alors, il ne faut pas se fier à son nom. Cette noix, elle est cultivée dans plusieurs pays de la région, dont le Pérou, donc, où elle est récoltée de manière traditionnelle sur des arbres très anciens, souvent dans le cadre de projets de conservation, car les noix du Brésil ont besoin d'une forêt en bonne santé pour pousser. Reportage dans la zone de Madre de Dios de notre correspondante Juliette Chénion.
Florencia affûte sa machette, enfile des bottes en caoutchouc et s'enfonce sur sa parcelle de forêt dans le sud de l'Amazonie péruvienne. Le premier noyer est à 30 minutes de marche, d'autres sont à plusieurs heures. Impossible de les rater, ces arbres peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de haut.
C'est haut, bien haut.
Sur les branches, des coques de la taille d'une petite noix de coco, ramassées une fois tombées au sol. La récolte n'a lieu que 3 mois par an et Florencia sort toujours en forêt avec son casque.
On va reculer un peu. Les noix tombent de bien haut, c'est risqué. Pour ouvrir les coques, on s'assoit. Il faut faire attention où on s'assoit pour ne pas tomber sur les grosses fourmis, balles de fusil. Voilà, ça ce sont les noix du Brésil avec leur petit opercule naturel.
Une coque contient entre 20 et 30 noix. Certains noyers ont plusieurs centaines d'années et les abattre est illégal au Pérou.
C'est naturel, ce sont des arbres sauvages. C'est une bénédiction de Dieu. Ici, ce ne sont pas des arbres que nous avons plantés.
Pour perdurer, ces arbres ont besoin d'un écosystème en bonne santé, sans déforestation ni feux agricoles. Plusieurs projets de conservation ont donc été lancés avec les castañeros, c'est le nom espagnol des propriétaires de noyers. Comme les 700 adhérents de la fédération locale, Florencia est payée plusieurs milliers d'euros par an pour protéger sa parcelle. La fédération touche 50% de la vente de crédits de compensation carbone mis sur le marché par une entreprise.
Avec cette noix, je peux m'occuper de mes enfants. Depuis que l'on a des bons carbones, c'est un soutien en plus pour améliorer notre vie. Et au moins, je ne travaille pas dans la coupe de bois.
Grâce au crédit carbone, l'entreprise assure protéger de la déforestation 500 000 hectares, des chiffres surestimés d'après plusieurs sources. Près de Puerto Maldonado, Miguel Samayoa préside une association de 50 producteurs de noix biologiques. Il a créé un parc touristique sur le fruit. Lui aussi mène des projets de conservation malgré des défis importants.
Les nuciculteurs de 50, 60, 80 ans, eux, ont bien la culture de la conservation des forêts. Le problème, c'est pour la nouvelle génération. Leurs enfants s'y intéressent très peu. Et beaucoup de bois sort des concessions des nuciculteurs. Il y a un marché en face et la vente génère un bénéfice immédiat. Donc les gens le font.
L'an dernier, le Pérou a exporté près de 5500 tonnes de noix pour une valeur de 40 millions de dollars. Le prix a augmenté depuis les années 2000, mais reste instable, lié à la demande des pays étrangers.
Les pays étrangers qui consomment la noix devraient reconnaître sa particularité, qui est d'aider à la conservation des bosquets et qui peut être une activité durable. On manque cruellement de marketing sur les réseaux sociaux. Il nous manque ça.
Et comme beaucoup de produits agricoles, la noix du Brésil passe par de nombreux intermédiaires. Pour contourner cela, une association, Ascart, a été créée en 2001. Elle regroupe les producteurs de noix d'une aire protégée de la région, comme l'explique l'administratrice Judith Vaiva.
Ascart est la seule association de la région à effectuer les trois étapes, la récolte en forêt, l'usine de conditionnement et de stockage, ainsi que la commercialisation.
Ici, les noix sont séchées, pelées à la main, puis exportées par sac de 80 kg. Des projets de produits dérivés sont aussi en cours.
Nous avons une nouvelle gamme de produits avec ces copeaux de noix au sel de maras ou aux herbes fines. On vend aussi des pépites comme ça. On peut en donner aux enfants, par exemple.
Objectif, diversifier les revenus et rendre la culture de la noix plus attractive, avec une nouvelle contrainte pour les castagneros, le changement climatique qui fait déjà chuter les rendements des noyers. Juliette Chénion, Puerto Maldonado, RFI.
Une dernière information dans la presse du continent a retenu votre attention, Marine de la Moissonnière, des manchots contaminés par la grippe aviaire en Antarctique.
Oui, c'est une triste première que révèle le quotidien chilien El Mostrador. Des scientifiques ont fait cette découverte lors d'une expédition organisée par l'Institut Antarctique chilien. 9 cas de grippe aviaire H5N1, des manchots à des lits, mais aussi des cormorans. Déjà fin février, comme l'expliquait le Washington Post à l'époque, des oiseaux touchés par la grippe aviaire avaient été identifiés en Antarctique, ce qui faisait craindre pour les manchots. Pour les scientifiques, ce n'était qu'une question de temps avant que la grippe aviaire, qui s'est propagée dans quasiment le monde entier, avant qu'elle n'atteigne l'Antarctique et ses manchots, déjà sérieusement menacés par le réchauffement climatique. Voilà donc un autre danger pour ces manchots.
Marine de la Moissonnière, votre revue de presse est disponible sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Martinique, les producteurs de bananes attendent des actes concrets de la part du gouvernement.
Et ça tombe bien, deux ministres sont aujourd'hui de passage du côté de Fort-de-France. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et sa ministre déléguée Marie Guévenoux. La filière banane espère notamment pouvoir leur soumettre leurs idées concernant la lutte contre la cercosporiose noire, l'ennemi public numéro un des bananiers. Alexis Gouillet est le président du groupement Banamart. Il est au micro de Claude Gracien.
J'attends du gouvernement du pragmatisme, de l'engagement. On a besoin d'un assouplissement des règles et des règles administratives. On a besoin d'avoir des drones pour nous permettre de faire des traitements extrêmement ciblés qui vont diminuer de 40% encore l'utilisation de molécules phytosanitaires. On est déjà à moins 83% dans l'utilisation des phytos. Les drones vont nous permettre d'en utiliser encore moins et de les utiliser encore mieux. En plus de ça, le drone n'est pas que pour le traitement, pour diminuer la pénibilité. On a des technologies qui existent, qui sont efficaces, qui sont performantes. Il faut juste y aller, c'est tout.
Direction la Guadeloupe, où le parc national veut mobiliser toutes les parties concernées dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique, effet aussi sensible sur l'île des Antilles que partout ailleurs, notamment dans ce qu'on appelle le recul du trait de côte, autrement dit le grignotage de la terre par la mer. Écoutez à ce sujet la directrice de l'ONF, l'Office national des forêts en Guadeloupe, Mylène Musquet. Elle est au micro d'Éric Lefebvre.
Nous perdons chaque année quelques mètres de plage, quelques mètres de zones qui sont à l'origine dédiées à l'accueil du public. Et nous nous trouvons régulièrement dans l'obligation de déplacer certains équipements qui sont devenus dangereux, parce qu'avec ce phénomène d'érosion, de recul du trait de côte, ce sont des carbets qui sont complètement déchaussés, ce sont des tables bancs qui sont dans l'eau. Et c'est une situation que nous devons effectivement gérer au quotidien, mais surtout anticiper. Donc ça nécessite pour nous de revoir toutes ces zones qui sont dédiées à l'accueil du public sur le littoral, de revoir l'accès à ces zones aussi, puisque certains accès routiers, certaines routes, certains sentiers sont déjà en danger critique liée à l'érosion. Donc c'est repenser ces aménagements parce que nous devons tenir compte de cet impact du changement climatique sur notre littoral.
Mylène Musquet, directrice de l'ONF en Guadeloupe. Bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à partir de 13h10 temps universel et quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous ne bougez pas, dans quelques instants maintenant, de vive voix, Pascal Paradou au Festival des langues françaises à Rouen.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio. L'épopée des musiques.